Éric Lefebvre, bonjour.
Bonjour Françoise Objoa.
Alors pourquoi avez-vous choisi de mettre en valeur au musée Guimet la dynastie Han dans le cadre de la commémoration des 50 ans de relations franco-chinoises ?
Eh bien, c'est une idée proposée par le comité France-Chine et qui était directement liée au programme pédagogique français, puisque depuis un petit nombre d'années, les élèves de 6e, aux côtés de l'Égypte antique, de la Grèce antique, ils abordent désormais l'Antiquité chinoise et surtout la dynastie des Han.
On peut se demander pourquoi la dynastie des Han a été choisie par l'Éducation nationale ?
Il me semble que justement, l'idée était de pouvoir construire un parallélisme avec l'Empire romain, puisque l'Empire des Han, ma foi, du 2e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle après Jésus-Christ, constitue une entité en Asie remarquable et qui finalement fait pendant au grand Empire romain d'Occident.
Alors justement, à propos d'Empire romain, est-ce que les Han entretenaient des relations avec les Romains ?
Alors, d'une part, on avait dans le bassin méditerranéen et à Rome en particulier, la possibilité de se procurer de la soie chinoise. Et donc, on identifiait la Chine comme étant le pays où était produit la soie. Cela ne veut pas dire qu'il y avait des échanges directs, des échanges humains directs, comme il y a pu y en avoir plus tard avec Marco Polo ou d'autres grands voyageurs. Il y avait donc des relations, mais c'était des relations qui étaient interrompues avec des relais, puisqu'il ne faut pas oublier qu'entre l'Empire romain et l'Empire chinois, il y avait d'autres empires très puissants, l'Empire Parthe par exemple, ou l'Empire Kushan.
Alors vous montrez dans cette exposition des pièces que l'on n'a jamais vues en Europe, car vous avez eu des prêts exceptionnels de musées chinois.
Les prêts ont été tout à fait exceptionnels, vous avez raison de le souligner. Nous avons eu des prêts qui viennent de 27 musées différents dans 9 provinces de Chine. Et pour chacune de ces provinces, souvent, les musées ont laissé partir pour le temps de l'exposition leurs pièces majeures. On peut voir par exemple des découvertes aussi célèbres que celle de Manchang avec un très célèbre brûle-parfum en forme de montagne. On peut voir un magnifique linceul de jade, pour les spécialistes du jade, l'un des plus beaux jamais découverts en Chine. On peut voir aussi des objets extraordinairement fragiles, par exemple des objets en lac découverts à Mawangdui dans les années 1970, qui sont datés du 2e siècle avant Jésus-Christ et qui sont dans un état de conservation incroyable.
Alors toutes ces pièces sont des objets funéraires ?
À 95%, il s'agit d'objets funéraires. Cela est l'héritage d'une archéologie chinoise longtemps tournée vers le funéraire, puisqu'on a plus d'une dizaine de milliers de tombes Han qui ont été fouillées depuis les années 1950. Et néanmoins, on a un ou deux objets qui ont été retrouvés sur des sites de palais, en particulier dans l'ancienne capitale des Han de l'Ouest, Chang'an, près de l'actuelle ville de Xi'an. Et cela, évidemment, reflète aussi une exposition qui est largement tournée vers l'objet, puisque les tombes funéraires, les rites funéraires de l'époque des Han avaient cette particularité de comprendre de très nombreux substituts qui font que finalement on peut aborder tous les aspects de la société, tous les aspects de la vie quotidienne avec le matériel archéologique contenu dans les tombes.
Oui, ça fait un peu penser à l'Égypte d'ailleurs sur ce plan-là. Alors on connaît peu de choses en France sur les travaux de l'archéologie chinoise et votre exposition nous permet de voir des découvertes marquantes de ces dernières années.
Alors, cette archéologie chinoise, il faut bien remarquer que depuis 60 ans, elle a obtenu des résultats très importants pour l'époque des Han. Il y a eu toutes ces découvertes spectaculaires avec des périodes qui étaient difficiles pour la Chine, comme par exemple la révolution culturelle, mais qui n'ont pas empêché les archéologues de faire quelques découvertes importantes. Par exemple, je pense à la tombe de Manchang, découverte à la fin des années 1960. Il faudrait aussi souligner les évolutions récentes de l'archéologie des Han, moins tournées vers le funéraire et qui explore d'autres pistes, comme par exemple des villages, des lieux de peuplement, des lieux aussi de fortification, des postes avancés sur la route de la soie, et aussi des lieux de production, fabriques de céramique, fabriques de miroirs, fabriques aussi d'objets en fer.
Et pourquoi les tombes impériales ne sont pas fouillées ?
Les tombes impériales font l'objet d'une protection particulière. Elles sont très bien localisées. Elles ont fait l'objet de sondages qui permettent d'en connaître le plan de manière très précise. Mais on protège en particulier les chambres funéraires des empereurs. Et je pense que cela est un peu l'enseignement de ce qui a pu être fait pour la tombe du premier empereur. On a découvert dans les années 1970 les fameuses armées du premier empereur, armées enterrées. Ces images ont fait le tour du monde, nous les avons tous en tête. Or, ces soldats, grandeur nature, étaient tous peints avec une polychromie très précise, une polychromie très vive, qui aujourd'hui est invisible lorsqu'on visite le musée de Xi'an qui leur est consacré. Donc, les archéologues chinois ont essayé pendant des dizaines d'années de conserver ces polychromies, ont fait appel à des équipes étrangères sans plus de succès. Et aujourd'hui, je crois que c'est le principe de précaution qui prévaut. On ne fouille pas le cœur des tombes impériales, on se contente de connaissances, à une exception près, qui est la tombe de Han Tingdi, et dont nous montrons de très nombreux objets dans notre exposition. Mais il faut bien remarquer que tous ces objets proviennent de fosses annexes et que le cœur de la tombe a été préservé.
Et donc tout ça n'a rien à voir avec cette fameuse légende de Mercure ?
Alors, vous faites allusion à un récit très célèbre, un récit de Sima Tian, le premier historien, le père de la tradition historiographique chinoise, qui, en évoquant la tombe du premier empereur, dit que le cœur de la tombe était constitué par un microcosme où les fleuves du monde étaient représentés avec du mercure. Alors, c'est une histoire, bien sûr, qui excite l'imagination et qui a amené les archéologues chinois à procéder à des sondages qui leur permettaient, sans ouvrir la tombe, de voir s'il y avait un taux de mercure anormal à proximité de la tombe. Et ils ont constaté effectivement un taux de mercure important. Donc, il semble que les informations transmises par Sima Tian soient fiables.
Voilà qui est intéressant. Alors la dynastie Han arrive en 206 avant Jésus-Christ, un tournant de l'histoire chinoise, après l'unification de la Chine par Sin Shi Huangdi, bien connu justement pour son armée de terre cuite.
Alors l'originalité de cette exposition, c'est justement de ne pas présenter le premier empereur et les Han comme un bloc. Souvent, c'est le cas. Nous avons pensé que le premier empereur avait été souvent présenté en Europe et en France en particulier, et qu'il était intéressant de revenir sur la période des Han pour elle-même. Alors certes, l'héritage du premier empereur est très important, l'unité territoriale, l'unité des poids, des mesures, de la monnaie, mais les Han vont beaucoup plus loin. Ils ont une idéologie différente. Ça n'est pas l'idéologie légiste si dure et décriée par les lettrés. C'est une idéologie confucéenne et c'est sous les Han que finalement Confucius prend sa place dans le système de pensée chinois qui ensuite ne lui sera pas disputé jusqu'au XXe siècle. Donc les Han nous ont semblé aussi très intéressants à étudier pour eux-mêmes du point de vue justement aussi artistique qui est le nôtre. On voit tout de suite que si la logique par exemple des substituts funéraires est comparable à celle du premier empereur avec donc de très vastes ensembles de soldats, de serviteurs, d'animaux, eh bien on voit tout de suite qu'on a affaire à un style et qui révèle aussi une pensée différente, quelque chose de beaucoup plus stylisé, dynamique, créatif, qui fait la force de l'art sous les Han.
Oui, les Han ont la chance d'hériter d'un royaume en ordre de marche et ils peuvent le faire fructifier. Alors qui était Liu Bang, le fondateur de la dynastie Han ? J'ai l'impression que ce n'était pas un homme très recommandable.
Liu Bang était l'un des opposants au premier empereur, en tout cas à son héritier. Et au moment où la population, où les anciens aristocrates des royaumes combattants décident de secouer le joug, plusieurs chefs de guerre se distinguent. Le plus important d'entre eux se nomme Xiang Yu, c'est lui qui prend la tête de la révolte. Mais l'un de ses acolytes se nomme Liu Bang. Il est à la tête du fief de Han. Et lorsqu'ensuite, finalement, il se retrouve opposé directement à Xiang Yu au cours d'une lutte qui deviendra célèbre, qui donnera lieu à de nombreuses pièces de théâtre, épopées et autres, eh bien, Liu Bang finira par l'emporter, aussi par sa ruse et par son sens politique. Il arrive à fonder un empire avec des principes assez différents tout de même de ceux du premier empereur. Il met en place ce système un peu mixte avec d'une part un certain nombre de territoires ou commanderies qu'il confie à des fonctionnaires et d'autre part des fiefs qu'il confie soit à ses frères d'armes, soit aux membres de sa famille.
Alors quels sont les moments marquants des quatre siècles de la gouvernance de la Chine par les Han?
Alors, à la suite de ces années fondatrices, celles marquées justement par le début de l'Empire et Liu Bang, qui nécessite un réaffermissement sur la totalité du territoire, mais aussi vis-à-vis de voisins qui sont très puissants, en particulier le peuple Xiongnu au nord, on a une ère de paix et de prospérité qui correspond au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ, au moment justement où a vécu Ting Di, dont nous avons de nombreux témoignages dans notre exposition. Cette ère de prospérité, elle va être suivie par un règne immense. C'est le règne de Han Wudi, qui est sans doute le grand empereur des Han, celui dont il faut se souvenir. Son règne dure 60 ans et il est marqué par de très importantes réalisations. D'abord, c'est lui qui fait cette percée vers l'Asie centrale et qui établit les postes avancés militaires des Han sur la route de la soie. Ces avancées s'accompagnent d'une prospérité économique importante, puisque non seulement on augmente la surface des terres cultivées, mais aussi on améliore les techniques agricoles. C'est aussi à cette époque qu'il établit un monopole sur le sel et sur le fer et également qu'il se réserve le droit de battre monnaie avec une nouvelle monnaie, le Wuzhou, qui va être utilisée pendant près de 7 siècles et qui permet de mesurer aussi l'héritage de Han Wudi bien au-delà de son propre règne et même au-delà de la dynastie des Han.
Alors on comprend pourquoi c'est une des périodes les plus brillantes de l'histoire chinoise. Alors, quelle est la signature des Han dans l'histoire de l'art?
Alors, les Han, au début du IIe siècle, sont héritiers de toute l'effervescence artistique des royaumes combattants. En effet, du Ve au IIIe siècle, dans différentes régions de la Chine, étaient établis des royaumes qui, bien sûr, rivalisaient sur le plan politique et militaire, mais qui avaient aussi un art, une littérature originale. Et l'art des Han va être aussi l'héritier de tous ces différents styles régionaux. Néanmoins, il y a des constantes qui permettent de dégager une sorte de grammaire des styles. Enfin, pour être plus simple, on pourrait dire que l'art des Han, il est fait d'une part de simplicité. Simplicité des formes, par exemple, de ces vases de bronze qui s'opposent à la grande complexité des formes des vases de l'Antiquité, des périodes des Shang et des Zhou, mais en même temps avec un décor souvent chatoyant, polychrome. On apprécie en effet les oppositions entre l'or et l'argent, lorsqu'il s'agit du métal, ou des oppositions très fortes entre le noir et le rouge, lorsqu'il s'agit d'objets peints, d'objets laqués. Au-delà de ces constante, il y a aussi un art de l'entrelac du décor qui se révèle à double lecture, qui semble au premier abord avoir toute la rigueur d'un décor géométrique et qui, à y regarder de plus près, est en fait un décor foisonnant d'animaux mythiques, de dragons, etc.
C'est une iconographie très riche. Alors justement, quels étaient les thèmes de prédilection des artisans ? Parce que j'ai vu qu'il y avait dans cette exposition des soldats, des femmes, des chevaux, des animaux, des danseuses, des musiciens. C'est très vivant.
Alors justement, on remarque du début à la fin des rânes que le champ de ce qui est représenté par les artisans tend à s'étendre toujours davantage à différents aspects de la vie quotidienne. On a par exemple des scènes de cuisine, d'un réalisme et d'un pittoresque extraordinaire. Alors bien sûr, les grands décors peints des tombeaux ne figurent pas dans notre exposition, mais nous avons des représentations plastiques sous la forme de modèles réduits en céramique qui sont extrêmement savoureuses. Et puis, justement, ces artisans arrive à saisir des choses de plus en plus subtiles. Je pense en particulier aux représentations de danseuses qui permettent de montrer un mouvement extraordinaire, un mouvement lent, fait d'effet de manches, de très longues manches, qui étaient justement là pour souligner les gestes parfois discrets de la danseuse. Et au-delà de tout ce qu'on peut connaître, par exemple, du premier empereur avec un art très frontal, un peu rigide, ici, on a au contraire un art dynamique, parfois même à la limite de la rupture d'équilibre.
Oui, beaucoup plus humain, finalement, et qui parle plus à l'époque contemporaine. Alors, les rânes, c'est aussi l'écriture, et dans cette exposition, on peut voir quelques estampages, ce qui est finalement pas si fréquent.
Alors effectivement, l'écriture, c'est quelque chose de très important. La calligraphie est au cœur de l'art chinois et l'époque des Han, elle est fondatrice sur ce point. Elle est fondatrice du point de vue de l'histoire de l'écriture, puisque l'écriture des scribes, l'écriture de chancellerie qui s'impose à cette époque est déjà normée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'un enfant chinois pourrait la lire assez aisément. Et parallèlement à l'histoire de l'écriture, il y a aussi l'art de l'écriture, puisque sous les Han, on va voir de plus en plus rentrer dans l'histoire un certain nombre de personnes dont la qualité principale est justement la qualité de leur écriture. Donc c'est le début d'une tradition, non seulement l'écriture, mais l'art de l'écriture qui émerge. À cette époque, nous avons choisi pour représenter cela non seulement un pinceau, de l'encre, un encrier, déjà ce que les lettrés chinois appelleront les trésors du lettré, mais surtout le quatrième trésor du lettré, c'est le papier qui justement apparaît à l'époque des Han pour la première fois au IIe siècle avant Jésus-Christ et qui au 1er au 2e siècle après Jésus-Christ est utilisé pour la première fois comme support d'écriture et nous avons la chance d'avoir un de ces très rares témoignages. À côté de cela, il y a les stèles qui n'ont pas voyagé depuis la Chine, mais nous avons des estampages qui témoignent justement pour la première fois de ces stèles qui sont parfois le support de la vie d'un personnage célèbre ou encore plus important, le support des textes classiques. Puisque ces fameux classiques chinois, cet ensemble de textes transmis depuis l'Antiquité qui vont former la culture de tous les lettrés fonctionnaires pendant plus de 2000 ans, eh bien, ils sont pour la première fois érigés sous la forme d'un canon très précis à l'époque des Han. Et le symbole même de cette canonisation, c'est le fait qu'il soit gravé dans la pierre sous la forme de stèle.
Et il n'y a pas plus chinois que l'art de l'estampage. Alors Éric Lefebvre, si vous deviez choisir une, ou allez peut-être deux pièces exceptionnelles, extraordinaires de cette exposition qu'il ne faudrait absolument pas rater.
J'ai évoqué tout à l'heure un objet très étonnant. Il est de taille modeste, ce n'est pas un substitut funéraire. C'était un objet qui certainement était un objet luxueux, un objet de cour. C'est un brûle-parfum. Alors ce brûle-parfum, il est composé d'une coupe Et le pied de cette coupe, donc en bronze, incrusté de métal précieux, forme une série de vagues, tandis que la partie supérieure du brûle-parfum est de forme conique, et ce sont des pics de montagne, donc quelque chose de très dentelé et rythmé par un mouvement ascensionnel. Et quand on s'approche de cet objet, on réalise qu'il est peuplé de petits personnages et d'animaux qui sont bien repérables à l'intérieur de ces pics. Il y a aussi un certain nombre d'ajours, de trous qui ont été pratiqués dans le couvercle. Et il faut imaginer donc qu'une fois que la résine était allumée à l'intérieur du brûle-parfum, eh bien effectivement, les effluves s'échappaient et qu'en plus de la mer et de la montagne, il y avait les nuages qui venaient baigner cet ensemble et qui formaient finalement une sorte de paysage en miniature, un paysage enraciné dans la cosmologie chinoise, puisque c'est un paradis taoïste que cette montagne Bo, où vivaient les immortels. Donc on a ici un objet véritablement chargé de sens et qui est un objet époustouflant, qui figure dans tous les manuels sur l'art chinois.
Bon bah très bien, on emmène le brûle-parfum. Éric Lefebvre, merci.